Lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, un jour, un fait, avec Luca Gandros Fernandez sur Radio Prévert.
24 octobre de l'an 79, nous sommes en pleine antiquité dans une ville de 15 000 habitants, à 250 km de Rome, on l'appelle d'ailleurs la Petite Rome, et puis à une vingtaine de kilomètres de Naples. Cette ville se trouve dans une zone assez commerciale, il faut dire qu'on est près de la mer méditerranéenne. Et puis surtout, près de cette ville, il y a une montagne. On l'appelle le mont Vésuvius, mais en fait, cette montagne, ce n'est pas une montagne, c'est un volcan. Bienvenue à Pompéi.
Un jour, un fait sur Radio Prévert.
6h du matin. Les marchands crient, les chevaux tapent le sol, il faut imaginer une scène assez bruyante. Éric Tessier, qui est historien, nous dit même que cette ville est le Hong Kong de l'époque. On y trouve marchands de légumes et de fruits, blanchisseurs, teinturiers, quincailliers, restaurateurs, boulangers, la liste est longue. Mais surtout, ce qu'on y trouve, c'est une compagnie qui se trouve dans la campagne environnante. Et qu'est-ce qui se trouve dans cette campagne? Eh bien, il se trouve une terre très 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 fertile. Et beaucoup de gens sont attirés par cette terre. Alors, je vais vous parler surtout de cette montagne qui se trouve à 10 km de la ville. Elle fait 2000 mètres de haut, représente une superficie de 198 mètres carrés, ce qui représente quand même deux fois Paris. Alors, autant dire qu'elle est considérée comme une divinité, cette montagne. Mais surtout, et c'est Jean-Pierre Adam qui nous le dit, les Pompéens ignorent totalement que le mont Vésuvius est un volcan. Et oui, pourtant il a déjà explosé 4 fois. Il est vieux de 20 000 ans, me diriez-vous. Alors, cette dernière éruption remonte cependant en 1800 avant Jésus-Christ. Souvenez-vous, nous sommes en 79 après. Donc il n'y a aucun écrit et pas de mémoire sur son activité. Personne ne s'en souvient. Alors, je vais citer Jasmine Scarlett, qui est professeure de géologie, pour nous décrire un petit peu ce Vésuve. Le Vésuve est un stratovolcan. C'est le type de volcan le plus répandu. Il est plus haut et plus pointu que les autres. Sa forme est due à l'accumulation des précédentes éruptions. Et oui, les 4 dernières. Je reprends mon récit. Il est 6h du matin, donc, et des tremblements de terre se font ressentir. Bon, il faut dire que les Pompéens, ils sont habitués, puisque déjà en 62, un très très grand tremblement de terre avait détruit une grande partie de la ville, et on a d'ailleurs retrouvé des fissures. Et d'ailleurs, ce gros tremblement de terre de 62 n'avait pas repoussé les habitants, puisqu'il y a encore cette terre très fertile, je me répète, mais cette terre qui est vraiment très fertile, qui attire la population. Eh bien, ce tremblement de terre, ce 24 octobre, Ce n'est pas comme le 62, en 62, non, puisque là, c'est un signal d'alerte. Le magma, qui se trouve dans la chambre magmatique juste en dessous du volcan, s'agite, et c'est pas bon signe. Il est 10h, personne ne craint rien, cependant on commence à entendre des bruits étranges, on parle même de grondements, de mugissements. Bon, tout ça est comparé à la colère des dieux. En fait, c'est la chambre magmatique qui est pleine, qui est prête à exploser. À midi, de plus en plus de grondements, les gens courent dans les temples et hôtels pour aller prier. C'est vraiment du jamais vu cette fois. Il est 13h, alors que les gens déjeunent, pendant que d'autres sont au spectacle, au théâtre, et puis il y en a certains aussi qui font leurs courses, et puis souvenez-vous, il y a ceux qui prient. Les cris s'intensifient, et puis, tout à coup, un bruit assourdissant se fait ressentir. Ce bruit, il vient du haut du Vésuve. Et puis, accompagnant ce bruit, un nuage gris. En comparaison, la vapeur qui sort d'un train. Mais cette vapeur, elle n'est pas blanche, elle est grise. Et elle est beaucoup, beaucoup plus grande, beaucoup plus importante que celle d'un train à vapeur. Nous sommes en fait dans la première phase. Alors, contrairement aux idées reçues, la première phase ne consiste pas... la première phase ne voit pas la lave couler, en fait. La lave, en fait, est pulvérisée et projetée hors de terre en des milliards de morceaux. Alors, ces projections, elles font quelques microns à quelques mètres et elles vont retomber. J'aimerais citer Andrew Wallace, qui est historien. Imaginez, Vous voyez cette colonne s'étirer dans le ciel? Que faites-vous? La réponse est que vous ne savez pas. Est-ce qu'il faut quitter les lieux? Est-ce qu'il faut chercher un abri? Alors d'ailleurs, on a retrouvé des gestes interrompus. Par exemple, on a trouvé chez un tailleur de pierre ses outils qui étaient en place. Il était en train de préparer une statue. Il dégrossissait un bloc de marbre en le sciant. Et puis, il y a eu cette explosion. Alors, il a lâché sa scie. Et puis, on a retrouvé la scie qui était encore engagée dans le bloc de marbre. C'est assez impressionnant. Pareil pour le boulanger qui avait enfourné ses boules de pain. Il ferme la porte de fer et puis il y a cette explosion. Il part en courant. Eh bien, on va retrouver ces boules de pain un petit peu grillées, mais on va les retrouver. Outre cette plaisanterie, il n'y a pas encore de victimes, mais croyez-moi, elles vont arriver. Il est 13h15. Une fumée noire sort du cratère. On peut parler d'une colonne de cendres qui se dresse au-dessus du volcan et en quelques minutes, elle va faire 30 km d'altitude. C'est trois fois plus haut que l'altitude où volent les avions de ligne. C'est la stratosphère. C'est énorme. À 14h, la colonne gagne du terrain grâce à un nuage et bientôt, la ville se retrouve dans le noir complet. C'est un noir sans étoiles, sans lune. Ce n'est pas la nuit, non, c'est le noir complet. Les habitants sont terrifiés, ne comprennent pas ce qui se passe. Ils voient sûrement leur vie défiler devant leurs yeux. 15h, 16h, il n'est toujours pas possible de quitter la ville. On cherche un endroit sûr. On pense que la meilleure solution, c'est de se cloîtrer chez soi. Mais souvenez-vous, il fait nuit toujours. Et ce nuage mélangé à la colonne, grâce à un vent, va se déplacer vers la ville de Pompéi, au sud-est. Il va se décharger de son contenu, souvenez-vous, les milliers de pierres, les millions et bientôt des milliards de pierres vont tomber. Alors au début, ce sont des toutes petites et puis de plus en plus grandes sur les jardins, les rues, les toits. Alors on se met des coussins sur la tête, des couvertures pliées en quatre. Là, c'est vraiment là qu'on peut commencer à dénombrer des morts. On peut parler d'une pluie de cendres et souvenez-vous, on est toujours dans le noir complet. Il y a des bousculades, des cris d'enfants, la peur qui doit se faire ressentir partout, un cœur qui bat à 1000 à l'heure. Et puis, si on allume une bougie, on essaye d'allumer une bougie, elle s'éteint immédiatement. Souvenez-vous aussi, il y a des colonnes, des statues qu'on a bâties quelques années auparavant. Elles vont tomber, s'abattre et là encore, faire des milliers de morts. Peut-être pas des milliers, mais quelques morts en plus. Il est 21h. 7 heures après le début de l'éruption, les pierres s'accumulent et les personnes qui sont restées chez eux ne peuvent plus sortir, leurs portes et leurs fenêtres sont bloquées. On parle de 2000 personnes prises au piège, les autres se sont sont partis par la mer. Il est minuit maintenant et les pierres viennent de s'arrêter de tomber, mais croyez-moi, c'est le calme avant la tempête.
Un jour, en fait, lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, avec Lucas Gandros Fernandez.
25 octobre de l'an 79. Il est 6h du matin et souvenez-vous, 24 heures auparavant, tout était normal, il y avait encore ces marchands qui criaient, ces chevaux qui tapaient le sol. Et maintenant, quelque chose de bien pire se prépare. Une nuée ardente, ou aussi appelée nuage pyroclastique. Alors, je suis allé voir la définition, puisque j'imagine que tout le monde ne connaît pas ce qu'est une nuée ardente. Alors c'est un aérosol volcanique porté à très haute température et composé de gaz, cendres, blocs de taille variable dévalant la pente d'un volcan. Voilà la suite de mon histoire. En fait, cette colonne, vous vous souvenez de cette grande colonne de cendres qui était juste au-dessus du volcan, elle va être victime de sa taille et de son poids et s'effondrer sur elle-même et ramper comme un serpent un petit peu. Elle va aller à 100 km/h vers le village de Pompéi. Tout ce qui était projeté vers le haut va tomber vers le sol et va tomber vers Pompéi. Éric Tessier, d'ailleurs, compare ce phénomène aux tours jumelles, sauf que ces tours jumelles, après s'être effondrées, elles vont se transformer, je reprends encore cette métaphore de serpent, mais c'est vraiment ça. Alors, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ce nuage pyroclastique, il va arriver sur la ville, on va mourir trois fois. Tout d'abord, on va mourir d'une onde de choc, 100 km/h, qui va assommer des gens, et puis aussi exploser des corps. Deuxièmement, à cause de l'air irrespirable, souvenez-vous, un mélange de gaz et de poussière. Et puis troisièmement, brûlé à 300 degrés Celsius. 1 km, 600 mètres, 400 mètres, elle se rapproche cette nuée ardente. Les gens sont affolés, ils veulent sortir, mais souvenez-vous, ils sont coincés, il y a toutes ces pierres qui bloquent le passage. 400 mètres, 200 mètres, là on sait qu'on va mourir. Alors on a des derniers gestes, par exemple on se met les mains devant le visage ou du linge devant la bouche et le nez. Et puis ça y est, 100 mètres, 0 mètres j'ai envie de dire, la vague a tout emporté.
Un jour, un fait sur Radio Prévert.
On dénombre tout de même 2000 morts, c'est énorme. Et ces 2000 morts, ils sont figés dans la pierre volcanique pour toujours jusqu'à 6 mètres de profondeur. Il y a aussi des rues, des maisons, des monuments qui sont engloutis. Pompéi, au fil du temps, tombe dans l'oubli, elle va être rayée de la carte, jusqu'en 1709. 1709, c'est une date qui marque la découverte de plaques, de marbre et de statues dans un champ. On va commencer des fouilles archéologiques, et on peut littéralement dire que la catastrophe a figé dans le temps la ville. Ça va nous permettre de découvrir comment les gens à cette époque vivaient. Et 50% de nos connaissances viennent de Pompéi. Ce qui détruit, préserve, comme dit Andrew Wallace. On va découvrir des maisons, des fresques, des objets de la vie quotidienne. Mais surtout, ce qu'on va découvrir, on va découvrir des cavités à forme humaine et aussi animale. Jean-Pierre Adam nous explique comment ces cavités se sont formées. Les corps humains et les corps des animaux vont être moulés par cette cendre extrêmement fine qui prend un moulage très fidèle. Par la suite, de l'humidité va pénétrer dans le sol, ces cendres volcaniques vont se concrétiser, donner naissance à ce qu'on appelle le tuf volcanique, une roche, et cette roche elle va se pétrifier en gardant l'empreinte des corps qu'elle a enveloppés. Les corps eux-mêmes vont rétrécir, mais l'empreinte va demeurer. Ces personnes, elles sont figées à jamais dans leurs derniers gestes. Alors, dès qu'on trouve une cavité, on va couler du plâtre, et puis on va obtenir un moulage presque parfait. Et qu'est-ce qu'ils nous montrent, ces moulages? Ils nous montrent la souffrance des hommes et des femmes, et même des enfants, dans leurs derniers instants, la peur, et puis le fait qu'ils ont essayé de lutter contre quelque chose d'inluttable, si vous me permettez l'expression. Surtout, ce qu'on voit aussi, c'est des personnes ensemble, réunies face à la mort.
Lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, un jour, un fait avec Lucas Gandros Fernandez sur Radio Prévert.
J'aimerais juste rajouter que le mont Vésuvius est, à l'heure où je vous parle, encore actif. C'est l'un des volcans les plus actifs de la planète. Pourtant, il y a des touristes qui se promènent, mais surtout, il y a une zone très urbanisée autour. Sa dernière éruption remonte à 1944, qui était une petite éruption comparée à l'éruption qui a détruit la ville de Pompéi. Et depuis 1944, il y a un centre d'observation qui le surveille constamment. S'il se met à émettre des signes d'éruption, c'est-à-dire des tremblements par exemple, eh bien, ce serait 700 000 personnes qu'il faudrait faire évacuer. Alors quand ça, personne ne le sait, mais ce que l'on sait par contre, c'est que ce volcan représente un très très grand danger. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une toute nouvelle sur Radio Prévert.
Un jour, en fait, lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, avec Lucas Gandros Fernandez.